Démarrer mon propos en vous lisant la première phrase de la circulaire. C'est ce que vous avez dû recevoir, je pense déjà, dans vos boîtes à lettres. C'est ce qui va être distribué dans les 240 villes où on se présente dans le pays, c'est-à-dire à peu près, on va s'adresser à 10 millions d'électeurs. Et la première phrase, après évidemment travailleuse, travailleur, qui est la marque de fabrique de Lutte ouvrière, comme le disait Mélanie, on s'adresse d'abord et avant tout aux travailleuses et aux travailleurs, ceux qui dirigent nous enfoncent dans la crise et les guerres. C'est la première phrase de cette profession de foi, et elle a été écrite il y a 2 mois, parce qu'on a des délais avec les imprimeurs qui sont importants à respecter, parce qu'on est une toute petite organisation. On l'avait écrite après le kidnapping de Maduro par Trump au Venezuela début janvier, et après que Trump ait menacé d'envahir le Groenland. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était déjà c'était début janvier. Et il y a 10 jours, samedi dernier, on s'est réveillé le matin en allumant son poste de télé, la radio, son téléphone. En apprenant que les États-Unis et Israël avaient déclaré la guerre à l'Iran et bombardé le pays sous un déluge de feu et de fer. Alors, cette guerre, elle a des répercussions incalculables dans la région, mais aussi à travers le monde. En 10 jours, elle a touché les pays du Golfe, elle a touché l'Irak, la Syrie. Israël en profite pour bombarder le sud du Liban et semble déterminé à faire de la banlieue sud de Beyrouth un nouveau Gaza. Ça veut dire un massacre et une destruction massive. Alors là-dedans, le petit chef Macron du petit impérialisme français a envoyé non seulement le porte-avions, mais j'ai appris hier à la télé que en fait tous les navires de guerre de la marine militaire de la France était déjà partie sur les océans, enfin en Méditerranée, et parce qu'il emboîte le pas à Trump et à Israël, parce qu'il espère bien, pour les capitalistes français, obtenir quelques miettes du gâteau iranien. Et en fait, on constate là depuis 10 jours que les États-Unis, Israël et puis tous les petits requins occidentaux, la Grande-Bretagne, la France, sont en train de nous enfoncer dans la Troisième Guerre mondiale. Voilà où est-ce qu'on en est en quelques semaines. Alors, je dis quelques semaines parce que là, ça s'est accéléré. Ça fait depuis des années, en fait, depuis le démarrage de la guerre en Ukraine, on assiste à une montée à la guerre, une préparation dans tous les budgets militaires des pays les plus riches de la planète. À un affrontement généralisé. Bon, ben là, on y est, et on ne sait pas du tout les répercussions. On sait déjà les répercussions ici, en Europe et en France, qu'on a déjà. Au-delà j'ouvre une petite parenthèse, du prix du gasoil qui a explosé. Visiblement, ils nous disent à la télé que ce n'est pas simplement l'essence, le gasoil, ça va être le fuel, ça va être le gaz, et puis derrière, beaucoup vont profiter pour augmenter des produits qui n'ont peut-être strictement rien à voir avec ce qui se passe en Iran. J'ai employé le mot profiter, et c'est vraiment ça. Ils profitent de la guerre, c'est des profiteurs. Le pétrolier Total, il profite de ce qui se passe en Iran pour faire exploser le prix. Et on nous avait vacillé pendant des semaines et des mois que ceux qui profitaient, c'était les chauffeurs. C'était ceux qui étaient au RSA, c'était les accidentés du travail, c'était même y compris les retraités, la génération dorée profitait du système, non, c'est pas eux les profiteurs. Les profiteurs, c'est les capitalistes qui profitent d'une situation pour s'enrichir sur le dos de l'ensemble de la société. Et là-dedans, le gouvernement et l'État ne veulent strictement rien faire. C'est une volonté politique de ne rien faire, parce qu'ils sont complices de ce vol, parce qu'ils sont en train de faire des poches, parce qu'ils sont communs, parce qu'ils sont alliés, mais aussi parce que l'État ramasse, via les taxes, ramasse aussi, et est en train de nous faire des poches, à travers la TVA et puis toutes les taxes sur le gasoil et compagnie, pour remplir les caisses, pour derrière, comme vous avez dit, les redonner sous forme de subvention aux grands patrons. Alors, on paye déjà ici cette guerre, mais ce n'est pas que ça. Il faut se souvenir du général Mandon au mois de novembre dernier. Mandon, c'est le général, c'est le chef. C'est le général des généraux. En gros, c'est le big boss de l'armée française, chef d'état-major, qui s'adressait au Congrès des maires, ceux qui vont se faire élire là dans une semaine ou dans deux semaines, en disant il faut être prêt à sacrifier vos enfants et à vivre dans la pénurie économique. Les deux étaient mentionnés. C'est-à-dire, un, sacrifier nos gamins, et deux, se serrer la ceinture. Parce que pour eux, on ne s'est pas encore suffisamment serré la ceinture. Et ils disaient ça devant les maires, en leur disant, c'est vous les maires qui allez être la courroie de transmission de ce que nous, à l'état-major, on va décider avec le gouvernement. C'est ça qu'il faut voir. Et on va être impacté directement. Alors le but de cette guerre en Iran, la télé fait que retranscrire les propos de Trump, de Netanyahou, ils nous disent c'est le nucléaire, c'est pour la liberté du peuple iranien, pour la liberté du droit des femmes, etc. Tout ça, c'est du baratin. C'est pas ça le vrai but de Trump. Le vrai but de Trump, c'est, comme au Venezuela, de faire plier le régime iranien pour mettre la main sur le pétrole. C'est ça qui son objectif. Pourquoi mettre la main sur le pétrole? D'abord, ça renforce les intérêts des capitalistes américains. Ils ont eu le pétrole au Venezuela, on pourra y revenir. Ils essayent d'avoir le pétrole en Iran. Ça renforce leurs intérêts par rapport à tous les autres capitalistes des autres pays. Mais c'est surtout derrière, ils visent la Chine, c'est-à-dire affaiblir économiquement la Chine, qui est devenue, au fil des années, le principal concurrent des capitalistes américains. C'est-à-dire que c'est devenu une puissance économique qui commence à gêner les capitalistes dans leurs affaires, et ça, c'est pas bon. Et ils ne veulent pas de rivalité, en tout cas la rivalité pour les capitalistes américains, il faut l'anéantir. Enfin, j'y reviendrai après, mais nous, donc on est dans une guerre avec derrière des intérêts économiques, donc il y a des populations qui sont en train de crever, des destructions qui sont massives, des soldats de part et d'autre de toute façon qui vont mourir pour des intérêts économiques bien précis, ceux des capitalistes américains et puis la bourgeoisie israélienne qui elle a un autre objectif, c'est de faire un massacre à Beyrouth ou au Liban. Alors nous, notre position, c'est qu'on dénonce cette guerre. Voilà, on a choisi notre camp. Notre camp, c'est la population iranienne. C'est pas le régime autoritaire des Mollahs, parce que ça, c'est pas un allié des travailleurs iraniens, mais nous, on est du côté de la population iranienne, des travailleurs iraniens. On a une position internationaliste, c'est-à-dire que par-delà les frontières, on défend cette idée fondamentale que les travailleurs, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur religion, leur couleur de peau, on a des intérêts communs face à nos exploiteurs et face aux États qui les soutiennent. Alors, c'est une position qu'on tiendra de toute façon, y compris quand la France va s'engager encore plus militairement. On ne sait pas demain ce qui peut se passer au niveau militaire, mais bien sûr que notre ennemi, il est ici en France aussi, c'est les capitalistes français qui lorgnent sur les miettes du gâteau iranien, qui ont des intérêts économiques et financiers à défendre dans les monarchies du Golfe, dans cette région du monde, et qui ne sont absolument pas nos intérêts en tant que travailleurs. Alors une fois que j'ai fait un peu ce tableau-là, il y avait quelqu'un qui disait, ce proverbe que vous connaissez peut-être, c'est ni rire ni pleurer, mais comprendre pour agir, et il faut essayer de comprendre pourquoi nous en sommes là. Et le responsable, Mélanie le disait sur le terrain économique, mais c'est vrai aussi sur les tensions internationales et sur la guerre, le responsable, c'est le capitalisme. C'est le fait que la société, elle est organisée en fonction de lois que aucune assemblée nationale, aucun l'électeur l'a voté, c'est la loi du profit, la loi du marché, la loi de la concurrence. Et ces lois-là, elles reposent sur le fait que les grandes usines, les grandes entreprises du CAC 40, les banques, appartiennent non pas à l'ensemble de la société, à l'ensemble de la population, à l'ensemble des travailleurs, mais appartiennent à des femmes, à des hommes, ce qu'on appelle certains les ultra-riches, les hyper-milliardaires, nous on appelle ça les capitalistes, les bourgeois, la grande bourgeoisie, les Bernard Arnault, les Bolloré, les Peugeot, les Bettencourt, j'en passe, et des meilleurs si on parle que de la France, mais c'est une classe sociale qui possède le capital, qui possède l'économie, et qui, dans ce système, n'a comme solution de toute façon pour continuer à survivre, pour continuer à défendre ses privilèges, de se faire la guerre entre eux, entre les capitalistes. Je vais parler de l'automobile, qui est un secteur que je connais bien, mais on pourrait généraliser cet exemple à tous les secteurs de l'économie. C'est l'ancien PDG, peut-être que vous en souvenez de son nom, c'est Carlos Tavares. C'était monsieur 100 000 euros par jour. Voilà, il tournait à 100 000 euros par jour. Bon, vous imaginez les actionnaires, ce qu'ils ont pu manger, comme ils étaient riches. Et lui, il disait, à partir du moment où le marché automobile il ne grandit pas, pour continuer à faire du profit, nous, Stellantis, c'est-à-dire PSA et Chrysler, on doit aller manger dans la gamelle des autres. Aller manger dans la gamelle des autres, ça veut dire aller prendre des parts de marché chez Renault. C'est-à-dire piquer à Renault ses clients, piquer à Volkswagen ses clients. Ça veut dire se faire la guerre aux autres constructeurs automobiles. Et les autres constructeurs automobiles ont exactement la même politique. Et cette guerre, elle se fait avec la peau des travailleurs. C'est les fermetures d'usines, c'est les suppressions d'emplois, c'est les licenciements, c'est les salaires bloqués, c'est les droits collectifs qui sont explosés pour pouvoir gagner ses parts de marché, parce qu'il n'est pas question pour ces PDG de prendre sur les bénéfices et sur les dividendes. Et ça, c'est comme ça que fonctionne cette société. Et si on raisonne à l'échelle mondiale, ça donne l'impérialisme, c'est-à-dire que les principaux pays occidentaux se sont partagés le monde, ont mis en coupe réglée l'ensemble de la planète. Et aujourd'hui, les capitalistes américains, par exemple, qui veulent coiffer au poteau les Chinois par rapport au pétrole au Venezuela, au début, on envoie les commerciaux. On en voit ceux qui peuvent empêcher les Chinois d'acheter le pétrole vénézuélien, Et s'ils n'y arrivent pas, on envoie les généraux. En gros, on envoie les militaires. Et c'est ce qui s'est passé au Venezuela. Maduro, il ne voulait pas vendre le pétrole aux Américains, aux capitalistes américains, il voulait le vendre aux Chinois. Bon, bah, kidnappé. Il est maintenant en taule avec sa femme. Trump, il s'est entendu avec la vice-présidente. Elle veut bien faire le job avec Trump, elle veut bien dealer. Ça passe. Et maintenant, le pétrole, il est aux mains des capitalistes américains. Et là, en Iran, c'est exactement le même raisonnement. C'est qu'il faut faire plier ce régime d'une manière ou d'une autre. Et là, ils ont choisi la manière forte. C'est-à-dire d'enclencher tout un processus militaire, tout un processus guerrier, dont on ne connaît pas encore l'aboutissement. Comment va réagir la Chine ? La Chine, elle voulait le pétrole pour faire tourner son économie, le pétrole au Venezuela, elle ne l'a pas. Là, elle n'a plus de pétrole iranien. Il y a un moment donné, peut-être que c'est le calcul des Américains, j'en sais rien du tout. En tout cas, on peut imaginer que d'abord, il faut associer la Chine de son pétrole pour l'affaiblir, pour la déstabiliser et gagner des parts de marché au profit des Américains. Alors, vous voyez un peu le système de dingue dans lequel on vit. Et là-dedans, nous, les peuples, nous, les travailleurs, on est pris en otage. On est pris en étau, dans un cercle infernal, dont on a ce sentiment d'impuissance. C'est vrai, quand on voit la puissance de feu de l'armée américaine, les destructions qu'il y a, et qu'ici, ça continue au niveau économique, c'est licenciement après licenciement, fermeture d'usine, etc. On se dit, mais comment on peut inverser la situation? Comment on peut changer la donne? Comment on peut ne pas aller, enfin, que cette société elle continue à tout ravager, et parce qu'ici, encore une fois, il faut qu'on soit conscient qu'on va payer d'une manière ou d'une autre, on commence déjà à le payer. Alors oui, en face, ils sont puissants. Ils sont puissants parce que c'est pas parce qu'ils ont des armes, c'est pas parce qu'ils ont des rafales, ou ils ont des missiles, ou des drones, ou je sais pas quoi. Ils sont forts parce qu'ils possèdent le capital, ils possèdent l'argent. C'est les banquiers, c'est les financiers, c'est les capitalistes, les gros. Ils possèdent le capital, mais aussi ils possèdent à leur service des États qui les soutiennent dans leur guerre, ils ont la police, ils ont la justice, ils ont les médias, ils ont les syndicats pour eux, qui travaillent pour eux. Ils paraissent extrêmement puissants. Je dis ils paraissent parce qu'ils ont un talon d'Achille. Ce talon d'Achille, c'est nous, c'est les travailleurs. C'est que même pour faire leur sale guerre, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous pour fabriquer les armes. Ils ont besoin de nous pour les acheminer là où il faut les acheminer. Ils ont besoin de nous pour faire fonctionner la société, toute la société. Je ne reviens pas sur ce que Mélanie a dit, mais c'est ça la force du camp des travailleurs. C'est ça la force de la classe ouvrière. C'est qu'elle est à la base du fonctionnement de la société, de la production, de la création, de la moindre richesse. Et elle est là notre force. Notre problème, c'est que les travailleurs n'en ont pas conscience. Qui sont forts collectivement, socialement et qui pourraient être forts politiquement. Ils n'en ont pas conscience. Et c'est vrai que notre boulot, et on se présente dans ces élections, on appelle à voter pour lutte ouvrière, parce que c'est ces idées-là qui sont nécessaires, qui sont utiles aux travailleurs pour qu'ils changent la vie et pour qu'ils arrêtent la catastrophe qui est en train de s'annoncer et qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Alors, comment on peut faire? Parce qu'une fois qu'on a dit tout ça, moi je pense que, enfin, on pense que dans la situation dans laquelle nous sommes, il y a une chose d'abord qui est impérative, incontournable, c'est qu'il ne faut pas rester seul. Il ne faut pas rester seul devant BFM, il ne faut pas rester seul devant CNews, il ne faut pas rester seul à écouter tout ce qu'ils sont en train de nous bourrer le crâne là sur ce qui se passe en Iran, mais ce qui se passe aussi en France. Etc, etc. Là, le petit mensonge là, sur l'explosion du prix du gasoil. Ils sont en train de nous dire que c'est parce que les tankers ils sont bloqués dans le détroit d'Hormuz. C'est vrai qu'ils sont bloqués dans le détroit d'Hormuz, mais c'est pas cette essence-là qu'on est en train de prendre à la pompe pour remplir nos voitures. Il a été acheté il y a un mois, quand c'était à 60 euros le baril, 60 dollars le baril. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il a redescendu à 100 dollars, mais il avait dépassé les 100 dollars. Vous imaginez la marge qui est en train de se faire en ce moment? La marge.
On va faire du prix qu'ils veulent nous ouvrir.
Exactement. Surtout ceux qui ont besoin de faire rouler leur voiture pour aller au boulot, pour chercher du boulot. Et là, ils sont en train de nous dire déjà un mensonge. Ce n'est pas la bonne explication. Ben, il faudrait que sur tous les sujets, là, je prends vraiment un petit sujet, mais sur le fonctionnement de la société, avoir une conscience claire de où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'ils veulent en face, et comment nous, on pourrait s'organiser pour se défendre, et même pour avoir un objectif clair, c'est-à-dire qu'il n'y a que par nos combats sociaux, par nos luttes sociales, luttes collectives, qu'on pourra relancer la tendance. Il faut des femmes et des hommes qui soient présents le plus possible, qui défendent ces idées-là, là où on travaille, si on travaille dans nos quartiers, dans notre famille, qu'on fasse une contre-propagande qui ne sera jamais aussi forte que celle de BFM et puis des patrons. Mais ce qu'il faut être conscient vraiment, c'est que être convaincu et ne pas perdre cette conviction qu'à un moment donné ou un autre, de toute façon, il y aura une explosion de colère. Parce que la vie qui nous font mener et qui va être encore de plus en plus dure vu la période qui s'annonce, elle va de toute façon faire naître des réactions collectives. Et c'est sur ces réactions collectives qu'il faudra qu'on agisse pour que les travailleurs ils puissent diriger leur bagarre, qu'ils puissent diriger leur lutte, mais surtout qu'ils aient conscience de qui sont les véritables responsables de nos malheurs. Ce n'est pas simplement les petits politiciens qui sont à l'Assemblée nationale et qui jouent les clowns là à se chamailler entre eux. Ça, ce n'est pas eux les vrais responsables. Les vrais responsables, c'est les actionnaires des entreprises du CAC 40 et qu'il faudra leur prendre les banques. Il faudra leur prendre leurs usines, leur prendre leurs entreprises et qu'il faudra que les travailleurs, à un moment donné ou à un autre, se donnent les moyens de diriger la société et de la renverser de fond en comble pour la réorganiser. D'une manière qui puisse répondre aux besoins élémentaires de la population. Voilà en gros les idées qu'on défend dans ces élections-là, comme dans toutes les élections, mais aussi qu'on défend tous les jours de l'année.